Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première émission de La Clé des Champs, votre nouveau rendez-vous culture porté par la communauté de communes Onis-Sud. Alors on est très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour le lancement de cette nouvelle émission. C'est un moment un peu spécial pour nous et en même temps on était vraiment impatients de commencer et de se lancer dans ce projet. Alors La Clé des Champs, c'est votre nouvelle émission où on va explorer ensemble les merveilles de la culture sous toutes ses formes sur Onis-Sud. On parlera de musique, on parlera de patrimoine, de lecture et d'archéologie et surtout de ce que vous pourrez retrouver sur Onis-Sud dans les semaines à venir. Et pour ça, je suis bien entouré puisque je suis accompagné de nos spécialistes Héloïse.
Bonjour Guillaume.
Et Renaud qui sont là aujourd'hui.
Bonjour Guillaume.
Alors au programme de l'émission aujourd'hui, on reçoit d'abord Dominique Etna-Corbal qui viendra nous parler de son travail sur le site archéologique et de son exposition artistique que vous pourrez retrouver tout l'été à la Villa Gallo-Romaine à Saint-Saturnin-du-Bois. Retour ensuite sur les bancs de l'école avec Renaud qui nous emmènera en immersion à l'école primaire de La Devise avec le projet Fanfare du Conservatoire de musique Onis-Sud. Puis nous recevrons le Centre d'animation et de citoyenneté pour nous parler des missions du CAC et de leur programmation de l'été. Et on terminera enfin avec l'agenda pour ne rien louper de vos sorties culturelles sur le territoire. Mais sans plus tarder, on passe à l'interview.
Le site archéologique à Saint-Saturnin-du-Bois a inauguré la saison estivale avec les Journées européennes de l'archéologie le 15 et le 16 juin 2024. Pour rappel, le site archéologique à Saint-Saturnin-du-Bois a été découvert en 2007 dans le cadre d'un projet de lotissement communal abandonné par la suite au profit d'un programme de recherche, de médiation et de valorisation. Chaque été, depuis 2011, il ouvre ses portes pour des ateliers, des visites guidées et des manifestations culturelles. Les Journées européennes de l'archéologie sont pilotées par l'INRAP, Institut national de recherche en archéologie préventive, sous l'égide du ministère de la Culture. Elles se déroulent chaque année le troisième week-end du mois de juin. Et dans le cadre de l'édition 2024, deux artistes de Nouvelle-Aquitaine ont réalisé des installations au site archéologique. Alain Mitiot, introduit comme le marionnettiste du vent, c'est un artiste de Genouillé qui est spécialiste de l'aérodynamisme et qui intervient régulièrement dans des festivals de cerf-volant. Il a fait pousser pour l'occasion des mobiles coquelicots et il était accompagné de sa compagne Marjorie Truchet pour animer des ateliers de conception de cerf-volant. Mais nous sommes aujourd'hui en compagnie de Dominique Etna-Corbal. Bonjour.
Bonjour Héloïse.
Vous êtes artiste enseignant à l'université de Bordeaux-Montaigne. Vous composez une œuvre végétale en osier qui prend la forme d'écriture poétique, dialoguant avec le paysage et l'histoire du site archéologique. Cette installation sera visible durant toute la saison estivale. La nature est une source d'inspiration commune pour vous, Dominique Etna-Corbal, et puis Alain Mitiot. C'est souvent au cours de longues promenades que votre créativité se déploie. Alors Dominique Etna-Corbal, est-ce que vous pouvez me parler de votre lien avec la nature ?
C'est un lien complexe qui remonte à des années déjà. Bon, quand j'étais enfant, j'avais un lien à la nature très particulier. J'habitais une propriété à proximité de Bordeaux. Et dans cette propriété de 15 ou 16 hectares, j'avais quartier libre. Il y avait un étang, il y avait des prairies, des ruines et tout ça. Et j'étais comme Robinson Crusoe sur son île. Et par la suite, ça a été tout le littoral aquitain, depuis la pointe de Grave juste au Cap Ferré. Et en fait, de longues promenades sur les cordons d'estran et tout ça, ramasser un certain nombre de choses, des œufs de requins, de raies, enfin tout un tas de curiosités. Donc mon rapport à la nature est très très ancien et complexe.
Dans l'un de vos écrits, je vous cite, « J'organise mes déplacements et ces niches d'existence comme des microsystèmes permettant d'articuler ma vie humaine, artiste et professionnelle à travers l'usage des collections qui en assurent les diverses économies internes. » Donc on a un rapport entre les arts et la réalité dans votre création.
Ouais, c'est ça. Ça a toujours été. Enfin, j'ai toujours vécu sur plusieurs niveaux en même temps. Et ensuite, quand je suis allé aux Beaux-Arts, ça a pris un phénomène d'accélération. Et ensuite, ça a trouvé un ancrage dans des courants artistiques. Par exemple, dans les années 60, il y a un courant qui s'appelle Fluxus, qui a été un courant mondial, qui était un courant qui mélangeait l'art et la vie. Systématiquement. Donc vous connaissez des artistes de Fluxus, Ben qui vient de décéder récemment, Benjamin Vautier est un artiste Fluxus très important niçois, et vous connaissez en vidéo Yoko, la femme de John Lennon. voilà, qui est une artiste vidéaste, et d'autres artistes dont vous, enfin, vous avez dû croiser, mais le principal, même quand on a peu de connaissances en histoire de l'art, c'est Ben, tellement il s'est infiltré dans les produits dérivés et tout ça, dans son rapport à l'écriture et dans son rapport permanent à ce noir et blanc, voilà. Et en fait, j'ai développé très très tôt une non-séparation entre art et vie, puisque bon, j'avais la chance d'être prof d'histoire de l'art et d'art. Donc ce qui permettait de, et ce qui permet de faire bouillir la marmite, bien évidemment, et puis qui ne me sépare pas au niveau professionnel des systèmes qui sont les systèmes de pratique, d'exposition, de montage de galeries et compagnie. Et puis je suis chineur aussi, je suis marcheur dans la nature et je suis chineur, c'est-à-dire que dès mes études d'histoire de l'art, en fait, je pratiquais les salles des ventes et les connaissances que je pouvais avoir en histoire de l'art, je les mettais à profit pour collectionner, acheter, revendre et autres, et trouver un certain nombre de curiosités au niveau artistique. Donc, en fait, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis attentif à ce que l'on nomme le kairos ou la sérendipité. Le kairos, c'est une conception du temps qui n'est pas une conception chronologique, mais qui est une conception grecque. Alors, il y a le temps chronos, qui est celui qui se déroule, en fait, en permanence, de manière relativement linéaire, et à ce temps se trouve adjoint une autre qualité du temps que tout le monde a expérimenté, c'est celui de l'opportunité, ou celui de quelque chose de surprenant qui peut se conduire et se produire. Par exemple, je sais pas moi, vous avez un intérêt pour telle ou telle chose, vous passez devant une vitrine de libraire, par exemple, et puis vous allez avoir un livre sur cette chose, ou vous faites un vide-grenier et vous allez trouver quelque chose. Voilà. En fait, cette chose-là, cette opportunité, c'est ce que les Grecs appellent kairos. Kairos, c'est un espèce d'être rasé avec une tresse, et en fait, il faut s'en saisir. Et quand on saisit, c'est l'opportunité qui est l'opportunité bénéfique. Voilà. Et donc, ce travail sur Fluxus, enfin, cette référence à Fluxus, en fait, c'est une espèce de vie tressée, comme ça, qui mélange la vie professionnelle, la vie affective, la vie de collectionneur et la vie d'artiste, et qui, à chaque fois, produit des croisements qui sont kairos ou sérendipité.
Et parlons justement de curiosité et de, dans votre création, le rapport avec le patrimoine archéologique et puis à ces cabinets de curiosité.
Bon, vous avez compris que je suis, enfin, déjà depuis tout petit, quelqu'un de curieux. Et la curiosité, c'est pas du tout un vilain défaut, au contraire, c'est une qualité extraordinaire. Il n'y a pas de science sans curiosité, sans vouloir passer les portes, s'affranchir des interdits, et tout ça, être dans des systèmes qui sont des systèmes de transgression. La science a progressé comme ça. Et donc, voilà, déjà enfant, et puis jeune adolescent, par exemple, je faisais partie d'un club de fouilles, j'habitais la région parisienne, à Pontoise, et je faisais partie d'un club de fouilles dans le Vexin, qui fouillait des nécropoles mérovingiennes, un amphithéâtre, et puis qui faisait des prospections sur les grands champs du Vexin. Et ces prospections étaient faites par rapport à, donc c'était en lien avec des scientifiques d'une fac parisienne dont je ne me souviens plus de laquelle il s'agissait, et qui prenait une carte. Alors moi, j'étais complètement émerveillé, j'avais 13-14 ans. Il prenait tel nom, et sur tel nom, il se disait, on va faire une prospection à tel endroit dans un champ et tout ça. Et donc, par rapport à cette toponymie, donc l'inscription dans le langage vernaculaire de lieux particuliers, bien le fait est, on allait trouver, je sais pas moi, un certain nombre de tessons de céramique flammés, des éléments qui étaient des éléments de gallo-romains ou mérovingiens ou autres, et c'était prodigieux. On ramenait ça dans des petits sachets en plastique. Ensuite, on prenait la carte, on mettait des numéros d'inventaire au dos des tessons et tout ça, on dessinait ça sur des petits carnets. C'était merveilleux. Enfin, pour moi, c'était merveilleux. Donc c'était une curiosité de plus que j'ai conservée, bien évidemment. Toutes ces curiosités, on les conserve tout au long de leur, tout au long de sa vie. Et donc après, par exemple, dans mon boulot d'artiste, c'est une pratique que j'ai maintenue. Je travaille sur des carnets, je dessine, je prends des notes, j'inscris des photographies, comme on peut faire un carnet de relevé de fouilles. Et dans mon métier d'enseignant, c'est une pratique que j'avais instaurée également avec les étudiants, qui à la fin faisaient tous des carnets, bien évidemment.
L'écriture, vous nous parlez avec des mots dans vos créations qui se lient au paysage et au patrimoine, à la toponymie justement. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre processus de création pour le site archéologique avec l'écriture alors, végétale se cultiver?
Oui, ça, ce que j'ai installé sur la villa gallo-romaine, en fait, c'est le... Voilà, l'expression « se cultiver ». Donc je travaille avec des osiers, donc c'est des très grandes sculptures en osier qui font entre 2,50 m et 3 m chaque lettre. Donc là, celle qui est implantée sur le site de la villa archéologique fait autour de 13 m de long sur 3 m de haut. Et voilà, il inscrit quelque chose dans le paysage, se cultiver. Alors c'est relativement énigmatique, mais ça fonctionne. Donc mes sculptures sont rouges, comme les torii japonais. Vous savez, ces portes japonaises qui sont inscrites dans les jardins ou dans le et qui manifestent un passage et une bascule d'une autre nature. Et les torii sont également des idéogrammes. C'est pas simplement des portes, ce sont des idéogrammes et ils sont rouges. Et donc je travaille en rouge parce que ce sont les complémentaires qui sont les complémentaires dominants de la nature, couleur verte sur les herbes, sur les arrière-fonds paysagers, sur les arbres et autres. Et se cultiver pour la villa gallo-romaine, c'est en rapport au paysage et au territoire. En fait, la villa gallo-romaine, qu'est-ce que c'était? C'était un champ, et on ignorait en fait qu'il y avait cette chose-là. Et puis par excavation et compagnie, on a sorti un certain nombre de mobiliers, de vestiges archéologiques, et c'est de ça, donc, enfin, c'est en partie ceci qui est évoqué, quoi. Se cultiver, c'est le champ qui était cultivé, mais également en français, on a une double acception du terme culture. C'est la culture savante, celle fondée sur la connaissance, le savoir, l'histoire et autres, et en même temps la culture vivrière, celle qui nourrit les hommes, quoi, qui est au niveau de la terre et du champ. Et c'était cette occurrence de croisement qui m'intéressait. Sur se cultiver, c'est le champ qui se cultive, là, qui va être mis en jachère, et de l'autre côté, se cultiver, voilà, vous venez sur site, vous êtes in situ, et vous participez de cette culture historique du lieu.
Effectivement, vous pourrez retrouver ce jeu de mots tout l'été au site archéologique à Saint-Saturnin-du-Bois. Pour finir cette entrevue, est-ce que vous avez d'autres actualités à nous partager pour vos prochaines expositions, installations?
Bon, pour l'instant, je suis en train de tourner des petites vidéos qui tourneront sur mon site. Voilà, vous avez des petites interviews, des choses qui sont en rapport avec les productions, justement, sur mon site. Je travaille là-dessus en ce moment.
Merci beaucoup. Dominique Edna Corbal.
Merci à tous les deux. Et si vous souhaitez en savoir plus sur Dominique, on peut retrouver donc vos travaux sur internet sur le site Etna, donc Etna Corbal, corbal.com. Et puis n'hésitez pas à aller découvrir donc cette belle installation artistique sur le site archéologique à Saint-Saturnin-du-Bois. L'ouverture du site, Héloïse, c'est prévu pour?
Alors donc c'est prévu pour le 8 juillet.
Et ben on note la date du 8 juillet. Et puis on passe maintenant au micro-trottoir, notre prochaine rubrique, et pour ça on va retrouver les bancs de l'école avec Renaud, qui nous emmène en immersion à l'école primaire de La Devise, avec le projet Fanfare du Conservatoire de Musique Onis-Sud.
Oui, on a pour habitude d'imaginer que le conservatoire ne donne des cours de musique que dans ses propres murs, mais pas seulement. Nous proposons également des activités à destination des écoles primaires sur le territoire. On voit ce que cela donne.
C'est parfait ça. Parce que quel animal on imite?
L'éléphant, le loup.
Oh là là.
C'est vrai.
C'est le moustique.
Nous voici à la salle des fêtes de Vendrée en présence d'élèves de l'école primaire pour une activité qui leur est proposée pendant la pause méridienne. Il s'agit de la fanfare itinérante cuivre menée par le professeur de trompette du conservatoire rayonnement intercommunal Onisud, Guillaume Lécuyer. Guillaume, peux-tu nous en dire davantage sur cette activité que tu nous proposes ?
Oui, alors bonjour. L'activité consiste à créer une forme d'éveil à la famille des cuivres, atelier que j'ai le plaisir d'animer depuis 10 ans sur la communauté de communes. Le principe est de proposer sur la pause méridienne la découverte de 3 types d'instruments de la famille des cuivres, les cornets, les trombones et les tubas. Pour la raison suivante, c'est que ce sont des instruments dont le fonctionnement est assez similaire. C'est donc assez pratique pour expliquer aux enfants sans trop de difficultés techniques. Et puis c'est aussi mes instruments de cœur, donc ça me permet d'avoir une pratique un petit peu différente dans mon enseignement. Là on est plus sur de l'éducatif, et puis de proposer une proposition cuivre autre que l'enseignement de la trompette ordinaire au conservatoire.
Alors vous mettez l'embouchure sur votre instrument. Ok, posez bien votre trombone sur l'épaule, ça va être confortable. Voilà, tranquille. Voilà, tu vois. Est-ce que vous avez l'impression que la note sol, elle était bien nette?
Oui.
Pas tous, hein.
Bonjour, je m'appelle Ruben, je me suis inscrit à la fanfare parce que j'aime bien la musique. Pourquoi j'ai choisi la trompette? Parce que je trouvais ça intéressant d'apprendre des nouveaux instruments, pas des instruments basiques.
Bonjour, je m'appelle Ethan. Je me suis inscrit à la fanfare parce que je trouvais que la musique c'était bien, et puis j'aime bien ça quand t'écoutes des musiques et tout, ça t'inspire beaucoup. Ensuite j'ai choisi le trombone parce que c'est en 3 pièces et il est très puissant, et puis je trouve qu'il est différent des autres, voilà.
Bonjour, je m'appelle Nolan, j'ai décidé de m'inscrire à la fanfare parce que j'aime bien la musique, et j'ai choisi le tuba parce que j'aime bien cet instrument.
Nous venons d'entendre la fanfare de cuivre, mais ce dispositif existe aussi avec des instruments de la famille des percussions. Nous aurons l'occasion d'en parler lors d'une prochaine émission.
Merci Renaud pour cette exploration qui se termine littéralement en fanfare. On continue maintenant à notre émission avec une association qui œuvre au quotidien pour le bien vivre ensemble sur notre territoire. Aujourd'hui, nous recevons Arnaud Bruron, directeur adjoint et référent famille au CIAC. Bonjour Arnaud.
Et bonjour, bonjour à toutes et à tous.
Donc les actions du centre d'animation et de citoyenneté de Surgères, plus connu sous le nom de CIAC, sont plutôt variées, avec un champ d'intervention qui s'étale sur l'ensemble du territoire Onisud. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus ce qu'est le CIAC et ce que vous faites sur le territoire ?
Oui, alors le CIAC, c'est avant tout une association d'habitants qui a fêté ses 30 ans l'année dernière, et donc qui a vocation d'avoir un projet pour les habitants du territoire, un projet qui est porté en direction de la petite enfance, de l'enfance, de la famille, des jeunes. Hein, pour les adultes, c'est aussi une structure où on peut retrouver des services, on peut retrouver un lieu chaleureux, la boutique, la recyclerie. Boutique CAC, et une action autour de la mobilité. On peut louer des scooters pour aller travailler. Donc c'est une association effectivement qui développe un projet autour du vivre ensemble, autour d'activités, de projets, d'accompagnement de projets, de projets d'habitants, de projets de jeunes, qui sont suivis par une équipe d'animation, une équipe qui est de professionnels sur lesquels les bénévoles s'appuient. Et cette équipe est composée de 13 personnes qui œuvrent tous les jours pour proposer des diverses actions aux habitants.
Quelles sont les activités, les événements phares que vous avez programmés pour cet été? Parce que c'est vrai que le CAC aussi organise un certain nombre d'événements. Est-ce que vous avez des choses qui arrivent justement cet été?
Eh ben oui, c'est vrai que l'été, ça fait 20 ans que le mois de juillet est rythmé par les scènes d'été. Les scènes d'été, c'est quoi? Ben c'est en fait tout simplement une programmation de concerts, de spectacles qui est faite tous les jeudis. C'est un rendez-vous dans les communes, dans les petites communes du territoire, les jeudis soirs. Où sont proposés des concerts, sont proposés des spectacles et gratuits, ouverts à tous. Et c'est vraiment des espaces familiaux. Chacun, parents, enfants, seniors, peut se retrouver autour de ces soirées, de passer un moment agréable, convivial. On peut venir aussi un peu plus tôt pour partager un repas qui est préparé par les bénévoles. Et il y a de la petite restauration autour de crêpes. Et vraiment, c'est un lieu où on se sent bien, on se sent accueilli, on se sent bien et on partage un moment ensemble. Et la culture au CAC, c'est quelque chose qui existe depuis le début. Il y a eu des grands moments, des grandes manifestations autour. Ça s'appelait Bouger la place, qui s'appelait la fête de l'enfance. Il y a toujours eu des propositions culturelles. Et nous, ben, c'est vrai que l'été, ça fait 20 ans que l'on propose ces rendez-vous dans les communes.
Et donc, quelles sont les dates pour cet été, pour ces scènes d'été qui vont avoir lieu sur les communes, et quelles sont les communes aussi qui vont recevoir ces scènes d'été?
Alors, il y a 5 dates de programmées. On commence le jeudi 4 juillet sur la commune de Voué autour d'un spectacle qui va rassembler la famille Mike Tiger. Ensuite, on va enchaîner à Annay, la commune qui est un peu à l'extrémité, où là, en plus, on va travailler avec les accueils de loisirs toute la semaine, du lundi au jeudi, avec l'artiste qui est programmé et autour d'un stage artistique. Donc, les enfants de l'accueil de loisirs vont travailler avec cet artiste, vont développer un travail de chant, de mise en scène de tout, et qui va être proposé en restitution le jeudi 11, juste avant le spectacle de l'artiste. Ensuite, on va enchaîner à Saint-Crépin avec plutôt dans un esprit de bal, de guinguette, avec la guinguette de Peggy. On enchaîne ensuite le 25 juillet à Ballon, où là on va être sur des joutes vocales, la compagnie Sing Song, qui vont s'amuser à chanter et à nous faire chanter. Et on va finir en apothéose le 1er août à Saint-Pierre-d'Amélie, où autour d'un 18h pour finir la journée, on va proposer un spectacle familial avec les trois anges de la compagnie des Matapestes de Niort. Et on va finir sur de la cumbia, on va partir un peu en Amérique du Sud avec la cumbia boombox, qui va faire danser tout le monde pour finaliser cette programmation.
Ça fait un programme chargé, du coup. Il va y avoir plein de choses qui vont se passer cet été. Et puis on rappelle que le CAC a fêté ses 30 ans aussi l'année dernière, hein, du coup.
Effectivement, l'année dernière, on a fêté nos 30 ans à Marseille. C'était le moment de repartager, de retrouver du monde. C'était une belle soirée. Et c'est vrai que quand le CAC se promène, on le voit. Et il y a le montage du chapiteau, il y a les Tivoli, il y a le grand bus qui se balade. Donc c'est toute la caravane. Donc c'est toute une énergie qui va se balader tout ce mois de juillet là. Et c'est chouette.
Et du coup, comment les habitants du territoire, ils peuvent s'impliquer aussi au CAC? Comment ils peuvent soutenir les initiatives au-delà de participer aux scènes d'été et profiter des animations qui sont proposées? Est-ce qu'il y a un moyen aussi pour les habitants de s'investir dans l'association?
Ben oui, bien sûr, c'est vrai que cette association sans bénévoles ne peut fonctionner. Effectivement, vous imaginez bien que les scènes d'été sans bénévoles, ça ne peut fonctionner. L'année dernière, je crois qu'il y a 60 bénévoles qui ont tourné sur l'ensemble des scènes d'été, donc c'est ce qui est pas rien. Donc c'est ouvert à toutes et à tous. Effectivement, vous pouvez venir nous rencontrer dans nos bureaux ou à la boutique, où on peut échanger, partager sur ce qui est possible. On peut s'investir à la boutique, on peut s'investir sur les moments, les manifestations socioculturelles. On peut y apporter aussi, ça touche dans le cadre du conseil d'administration, on peut aussi faire vivre l'association. Il y a différentes manières de pouvoir s'investir au sein de l'association. Je pense aux ateliers cuisine, je pense au montage, la logistique, il y a la déco, enfin vraiment tout le monde peut s'y retrouver. Il y a de la place pour chacun.
Bon bah très bien, en tout cas on a bien noté, et puis merci beaucoup Arnaud pour ces précieuses informations, puis surtout bravo pour le travail formidable que vous accomplissez avec le CAC sur l'ensemble du territoire, sur les différents domaines aussi. Donc on a bien noté pour cet été les 5 dates, avec la première date, donc ça commence le 4 juillet à Vouet, donc notez bien cette première date, et puis après ça se poursuit sur tout le territoire pendant tout l'été. Merci beaucoup en tout cas.
Merci à vous et à très bientôt.
Donc il est maintenant temps de passer à l'agenda culturel, notre dernière rubrique de l'émission. Voici sans plus tarder les temps forts à noter dans vos agendas.
Et oui Guillaume, dans la rubrique agenda de l'été, commençons la saison avec la fête de la musique qui se déroulera en deux temps avec le conservatoire. Le 19 juin de 15h à 19h dans le parc du château de Surgères. Moment incontournable de l'année, la fête de la musique est l'occasion pour les multiples ensembles du conservatoire de se produire. Au programme, du piano, du chant, des ensembles à cordes, de cuivre, l'orchestre multi-instruments, mais aussi les ateliers de musique actuelle accompagnés par d'autres classes. Un moment de convivialité à partager en famille autour d'un répertoire varié et enjoué. Ensuite, le 21 juin à 18h30 à l'église de Surgères. Les classes de flûte et d'orgue du conservatoire se réunissent pour vous offrir un concert dans ce lieu magnifique, l'église Notre-Dame de Surgères. Cette collaboration offre un répertoire haut en couleur qui ravira vos oreilles. Poursuivons l'agenda en images. L'exposition « Vivre ici, point de vue d'Aunis-Sud » de Samuel Buton continue son tour d'horizon et revient cet été dans un nouveau format sur deux communes, l'André et le Toux. Pendant tout l'été, arpentez les rues et découvrez au fil de votre déambulation une quarantaine de photos grand format et autant d'anecdotes du territoire. L'inauguration se déroulera le samedi 29 juin. De la lecture maintenant avec Partir en livre. Le réseau des bibliothèques Aunis-Sud participe à la 10e édition de Partir en livre, événement national autour du livre pour la jeunesse. Une cabane à histoire à la bibliothèque d'Aigrefeuille d'Aunis, du 8 au 13 juillet, où les parents et enfants pourront lire et écouter des livres. Le 10 juillet à Ciré-d'Aunis, le 12 juillet au Toux et le 20 juillet à Landré, venez jouer au jeu du loup-garou spécial Jeux Olympiques, entrez dans une équipe pour gagner la médaille d'or. Toutes les informations sont à retrouver sur le site du réseau des bibliothèques. Pour rappel, les scènes d'été du CAC se dérouleront sur 5 jeudis. Le jeudi 4 juillet à Vouet avec Mike Tiger, le jeudi 11 juillet à Annay avec Tonicelli et les gamins du coin, le jeudi 18 juillet à Saint-Crépin avec la guinguette de Peggy, le jeudi 25 juillet à Ballon avec la joute vocale, et enfin le jeudi 1er août à Saint-Pierre-d'Amilly avec les Trois Anges et Cumbia Boombox. Un peu de sport maintenant pour la rentrée scolaire avec le Cycle and Sound le 15 septembre au site archéologique de Saint-Saturnin-du-Bois à partir de 13h. Le Cycle and Sound vous embarquera pour une virée à vélo à la découverte d'Aunis-Sud, un moment convivial en famille pour explorer le patrimoine local en écoutant 4 concerts tout au long de l'après-midi. Vélo, musique, animation et exploration n'attendent que vous au cœur de cette aventure. Poursuivons notre exploration avec le site archéologique. La Villa Gallo-Romaine ouvre ses portes du 8 juillet au 23 août. Vous pourrez y retrouver l'exposition de Dominique Etna Corbal. Enfin, clôturons cet agenda avec les Journées européennes du patrimoine les 21 et 22 septembre 2024.
Et bien d'autres événements passionnants vous attendent tout au long de l'été sur Aunis-Sud. Pour plus de détails, rendez-vous sur Intramuros. On vous remercie d'avoir été à l'écoute de cette première émission de La Clé des Champs. On espère que vous avez apprécié ce moment passé avec nous et que vous serez nombreux à nous retrouver pour la prochaine émission. D'ici là, profitez bien des activités culturelles de notre beau territoire et n'oubliez pas, La Clé des Champs, c'est votre nouveau rendez-vous pour explorer les merveilles de la culture sur Aunis-Sud, à retrouver en podcast sur lnfm.com et sur le site internet de la communauté de communes Aunis-Sud. À très bientôt.